Pourquoi tu me regardes comme ça ?
Des fois, cette émission me touche. J'aime bien le vivre à côté de toi, Mimi.
Et c'est sur l'autre radio ?
Il y a des histoires qu'on porte en soi sans même le savoir, des fragments de vie qui s'impriment dans la mémoire et façonnent notre regard sur le monde, sur nous-mêmes aussi, je crois un peu. Des gestes, des mots, parfois l'absence de tout cela qui laisse des empreintes profondes, souvent silencieuses. Des traces discrètes mais tenaces, qui nous suivent à l'âge adulte, influencent nos choix, nos relations et nous rappellent que l'enfance est un territoire fragile qu'il faut protéger autant que réparer parfois. Je ne commence pas cette émission comme ça au hasard, non, je vous parle de ces traces puisque vendredi et samedi dernier, le centre hospitalier du Haut-Anjou organisait un séminaire sur les violences conjugales et on le verra de manière même plus large sur les violences intrafamiliales. Ce séminaire abordait plusieurs thématiques et s'adressait avant tout aux professionnels. Alors parmi ces différentes conférences, Sophie Allais, maternologue, abordait la question des violences sur l'enfant et de ses conséquences à l'âge adulte. Justement, c'est avec Sophie Allais que l'on est aujourd'hui pour l'entretien du jour, pour revenir sur cette thématique. Et comme chaque mardi, on retrouvera aussi une lecture, celle de l'auditeur, un moment qui suspend un peu cette émission et vous permet de tendre l'oreille, de vous laisser aussi surprendre, mais d'une autre manière. On continuera avec un premier témoignage dans la suite de cette émission enregistrée avec les voix de nos animatrices et chroniqueuses de l'émission Sorcières dans le cadre de la série d'actions pour le mois de lutte contre les violences faites aux femmes à Laval. Elles ont prêté leur voix pour la lecture de témoignages anonymes recueillis à Laval. Ça sera donc en seconde partie d'émission et puis on termine en poésie et en beauté, en douceur, même beaucoup de mots conviennent à cette chronique. Vous vous en doutez, je vous parle bien sûr de la chronique de Donatien que l'on retrouve pour terminer cette émission. Voilà, bienvenue à vous, amis auditeurs, je suis Margot et votre émission quotidienne commence maintenant. L'agité du local sur l'autre radio. Sophie Allais, bonjour. Je le disais, vous êtes intervenue lors de ce séminaire organisé par le centre hospitalier du Haut-Anjou, un séminaire destiné à sensibiliser les professionnels au phénomène de violence conjugale, y compris celle exercée sur les enfants. Vous êtes, vous, maternologue et vous avez abordé la question des violences sur l'enfant et ses conséquences à l'âge adulte. Alors pour commencer, j'aimerais vous demander, maternologue, on entend très peu parler de cette spécialité, qu'est-ce que c'est ?
Bonjour, la maternologie c'est une spécialité qui s'intéresse à la dimension psychique de la maternité au sens large, c'est-à-dire le avant, le désir de la maternité, la grossesse, après on peut aller jusqu'à la parentalité, c'est-à-dire qu'on va aussi s'occuper, enfin prendre en soin et prévenir tout ce qui va concerner le baby blues, la dépression postnatale, enfin toute cette ambiance psychique de la maternité. Même les maternités, ce qu'on va nommer à vide, c'est-à-dire s'il y a une fausse couche précoce, tardive, tout ça, ça englobe la prise en soin des femmes qui veulent ou qui sont enceintes, enfin qui veulent être enceintes, qui sont enceintes ou qui ont déjà eu des enfants.
Parmi tous les sujets qui ont été abordés lors de ce séminaire, on parle de violence conjugale, mais finalement plus largement de violence intrafamiliale, puisqu'on se penche aussi sur la question de l'enfant. On va y revenir. Je pense qu'il peut être intéressant de réexpliquer, d'en redonner une définition. Les violences intrafamiliales, qu'est-ce que c'est ?
Waouh ! La violence intrafamiliale, c'est toutes les actions, les menaces qui vont perturber le bien-être dans la famille. Je ne saurais même pas trop dire ce que c'est, on voit ce que c'est, mais en tout cas, de mon point de vue de psy, on est sur des relations qui sont des relations et une qualité de vie qui sont complètement impactées par des comportements qui ne sont pas adaptés, qui ne sont pas attendus.
Si on revient sur la thématique que vous avez abordée, les violences sur l'enfant, vous avez commencé votre intervention en expliquant que finalement la famille, c'est le groupe social le plus sécurisant, mais aussi le plus dangereux pour l'enfant. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce point-là ?
Oui, parce que c'est effectivement le groupe social le plus sécurisant, c'est là où on apprend justement à être en sécurité alors qu'on est tout petit et qu'on est tout vulnérable. Mais en même temps, comme ça peut être un lieu milieux de violence avec des problématiques relationnelles majeures et des comportements complètement désadaptés, effectivement, ça peut être un lieu extrêmement, extrêmement dangereux. Et ce que j'ai dit aussi au moment de la conférence, c'est que c'est beaucoup plus dangereux d'être dans une famille dysfonctionnelle que d'aller en pleine nuit dans un parking souterrain non éclairé.
Donc oui, une image très parlante en effet. Et justement, quand on parle de l'enfant, on parle aussi des besoins fondamentaux. Vous avez parlé du besoin de lien et ce que vous avez très bien expliqué, c'est que dans un contexte de violence dans la famille, ce besoin de lien est accompagné paradoxalement de cette peur du lien.
Oui, parce que c'est sur le lien que l'enfant il va se construire, sur la qualité de son lien, parce que le lien, ça va permettre, avec des parents normalement adaptés, suffisamment bons, comme dirait un Winnicott, ça va permettre de construire les fondations, comme une maison, ça va permettre de construire des fondations sur lesquelles l'enfant il va pouvoir continuer à se construire. Construire des murs qui peuvent être idéalement antisismiques parce que la vie, quelquefois, ça tremble. Et effectivement, c'est par l'attitude adaptée de parents disponibles que ça va se construire. Et l'enfant, une fois qu'il a ça, après, il va pouvoir continuer à avancer et surtout, il va devenir autonome. L'enfant fait cette base de cette base de sécurité, et c'est sur cette sécurité qu'il va grandir et s'autonomiser. Et là, dans les violences intrafamiliales, on va se retrouver avec des parents désadaptés qui vont avoir des comportements anormaux, alors je mets des guillemets, anormaux, et donc l'enfant, lui, il va être complètement perdu, parce que à la fois, dans une famille qui fonctionne bien, si l'enfant pleure, on va lui demander ce qu'il a, on va le consoler s'il a du chagrin, on va le rassurer s'il a peur. Dans les familles dysfonctionnelles, où il y a de la violence intrafamiliale, ça, il n'y a pas. Donc l'enfant, il ne peut pas se reposer sur ce lien, parce que ce lien-là, c'est aussi ce lien qui lui fait peur. C'est-à-dire qu'à la fois, il a besoin de construire ce lien-là pour se construire lui-même, et en même temps, ce lien est dangereux. Donc ça donne un paradoxe extraordinaire chez l'enfant. Et il est perdu.
Et en se mettant à hauteur d'enfant, encore une fois, les violences dans la famille peuvent être donc directement adressées à l'enfant, mais ce peut être aussi des violences d'un parent vers l'autre parent, auquel l'enfant est témoin. La complexité de ce qui se passe, c'est qu'il y a une agression en elle-même que l'on considère effectivement comme une violence, mais il y a aussi l'abandon que l'enfant ressent. Est-ce que vous pouvez réexpliquer ?
Oui, parce que je rappelle, l'enfant il est avec ces deux figures là qui sont les plus importantes dans sa vie, c'est les premières personnes qu'il rencontre et qui sont censées prendre soin de lui. Et si par exemple, souvent c'est monsieur qui est plutôt violent, si là monsieur est violent, enfin papa est violent sur maman, donc d'abord ça fait peur à l'enfant parce que le père il est en train d'agresser la personne qui est censée aussi prendre soin de lui, mais qui ne se défend pas, donc la mère n'est plus disponible pour prendre soin de l'enfant. Et là, on va se retrouver dans quelque chose d'assez extraordinaire au sens premier du terme, c'est que le père est menaçant, violent à l'égard de la mère, mais en même temps, la mère, elle est tellement pas disponible qu'elle ne peut pas rassurer l'enfant à ce moment-là. Et donc l'enfant, il peut vivre ça comme une sorte d'abandon.
Vous avez parlé des traumas que peuvent provoquer justement ces violences, des traumas importants, et vous avez parlé de traumas précoces. Donc plus ce traumatisme arrive tôt, plus l'impact sur le développement de l'enfant est important ensuite.
Oui, parce que si on est sur les premiers apprentissages, notamment les premiers apprentissages de lien, où le bébé il est complètement vulnérable, et quand un bébé pleure dans son lit, effectivement ce qu'on fait c'est qu'on va voir. Alors, effectivement, on ne sait pas trop ce dont il a besoin, mais on cherche et on finit par trouver. Mais là, il n'est pas, c'est pas adapté. Et plus c'est précoce, plus ça va intervenir, ça va venir perturber son développement à plein de niveaux, au niveau émotionnel, ça c'est le premier impact, sa capacité à faire du lien, comment lui il va apprendre à faire du lien, parce que si quand les gens sont censés être gentils, ils sont aussi méchants, ça peut le suivre longtemps, surtout s'il est entouré de beaucoup de gens comme ça. On imagine la violence intrafamiliale, ça peut être aussi au sens large, avec des grands-parents avec qui ça se passe mal, enfin, ça peut aussi être ça. Donc le but, ça va être qu'il apprenne le plus précocement possible d'autres liens positifs et constructifs pour pouvoir continuer à avancer et que ça ait le moins d'impact possible sur sa vie.
Et justement, qu'est-ce qu'on peut en dire de ces conséquences? Ça intervient un peu sur tous les pans de la vie, finalement.
Oui, parce que si, par exemple, on prend l'exemple sur le plan social, si la personne, elle a été complètement envahie par ces menaces, ces violences, l'enfant, par exemple, il n'était pas dans un climat favorable pour apprendre, il n'était pas dans un climat favorable pour construire des relations, il n'était pas dans un climat favorable pour construire son estime de soi, sa confiance en soi, ce qui fait que à l'école ça va être compliqué, et on peut imaginer que quand il va arriver plus tard au travail, être en équipe ça va pas être simple, et parce que les gens ils sont gentils mais si ça se trouve ils vont devenir très méchants soudain, et aussi le fait de pas pouvoir travailler en équipe, et puis peut-être avoir du mal à apprendre ce qu'on tente de m'apprendre. Parce que la personne, elle n'est pas suffisamment disponible pour ça. Parce qu'elle est envahie par le stress. Parce qu'un des gros perturbateurs dans ces situations-là, c'est le niveau de stress constant, qui peut devenir chronique et avoir un impact sur toutes les sphères, la sphère psychologique, la sphère sociale, comme je le disais à l'instant, et la sphère somatique, le corps.
Une chose qui va encore plus loin et qui est révélatrice de cet impact dont on parle, c'est une étude qui a prouvé que plusieurs traumas, que des violences à répétition peuvent aussi avoir un impact sur l'espérance de vie.
Beaucoup d'études qui ont été faites et qui disent effectivement la même chose, il y a un impact sur la santé, il peut y avoir un peu plus de maladies chroniques, il y a des gens, les gens comme ça peuvent aussi se mettre en danger parce qu'ils n'ont pas appris à prendre soin d'eux, on n'a pas pris soin d'eux. Il y a vraiment plein d'impact à l'âge adulte chez les gens qui n'ont pas pu se réparer ou qui ont été mal réparés ou mal réparés.
Quelque chose qui peut interpeller aussi dans ce que vous avez expliqué, c'est que la difficulté à créer du lien ensuite se fait, comme on a pu le dire, dans le cadre professionnel, mais aussi et surtout dans le cadre personnel privé. Et plus la relation est proche et intime, plus la création, la construction de ce lien est compliquée ensuite.
Oui, parce que là, si on est sur de la violence intrafamiliale, on est avec ce qu'on appelle, nous, les donneurs de soins, c'est-à-dire les gens qui sont censés prendre soin de vous dès tout petit. Et donc on est plutôt dans de la relation intime, de la relation de proximité. On n'est pas sur quelqu'un qui va être agressif dans la rue qu'on ne connaît pas. Et donc, comme c'est de la proximité, forcément qu'à l'âge adulte, si la personne qui a vécu enfant des violences intrafamiliales, elle se retrouve en situation de couple, en situation de parent, forcément ça peut réactiver des choses si elle n'a rien fait.
En tant que professionnel, ce que vous constatez, c'est que des gens de tous âges se retrouvent à porter encore ce type de lourd bagage quand les choses ne sont pas réparées. Vous en rencontrez, vous le disiez, qui évoquent des choses comme ça à 40, 50, 70 ans même.
On est d'accord qu'on n'enlèvera jamais ce qui s'est passé, ça restera toujours dans la mémoire. Maintenant, la question c'est, est-ce que ce qui est arrivé dans le passé a toujours un effet aujourd'hui, des années plus tard, ou pas? Si c'est juste dans le souvenir et que c'est sans effet aujourd'hui, ok, ça c'est pas un problème. En revanche, si ça a encore des effets, c'est-à-dire que ça... Si la personne, elle, aujourd'hui, 70 ans, elle entend crier et que ça la fait réagir, que son corps réagit, là, on voit qu'il y a encore des effets. Et oui, ça peut ne jamais passer si on n'a pas fait quelque chose pour mettre plus de place aux ressources. C'est-à-dire que d'apprendre au fur et à mesure de la vie à construire des relations stables, des relations adaptées avec des gens qui sont bienveillants avec nous, qui savent nous consoler si on a besoin, qui savent prendre soin de nous. Si ça, on arrive à épaissir ça, là on peut dire que la personne elle va pouvoir continuer sa vie À peu près normalement, enfin, sauf avec quelques retours, quelquefois de souvenirs désagréables. Mais en tout cas, on n'enlèvera jamais, on n'enlèvera pas le problème. Le problème, il a existé. Ce qu'il faut, c'est épaissir les ressources, épaissir les liens stables, les liens qui font du bien. Et ça, c'est ce qu'on, ça fait partie de ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire que comme une maison, je parlais de fondation tout à l'heure et de construction de murs, comme une maison, une personne, elle peut aussi être restaurée, réhabilitée, réparée. Ça reste réversible sur les ressources, pas sur le, on va pas effacer le souvenir. En revanche, on va agrandir les ressources.
Et parmi les professionnels qui peuvent sentir ou suspecter ce type de violence, souvent bien cachée, vous avez parlé des vétérinaires qui très rapidement sentent via l'animal que quelque chose d'inadapté se passe. Alors ça semble étonnant au premier abord, mais pas tellement finalement.
Oui, les vétérinaires, c'est une profession qui peut repérer par l'attitude de l'animal domestique, donc souvent le chien, par l'attitude du chien, ils peuvent sentir... pressentir, constater, enfin, en tout cas repérer des prémices ou des signes de violence intrafamiliale.
Et c'est d'ailleurs donc une profession qui demande à être formée pour savoir réagir dans des cas comme ça.
Oui, j'ai rencontré des collègues qui sont formateurs et qui m'ont dit justement que les vétérinaires leur demandaient de plus en plus de formation sur les violences intrafamiliales, sur le psychotraumatisme, sur des signes comme ça que nous, on connaît. Mais eux, ils restent démunis parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose dans l'attitude de l'animal qui, lui non plus, n'a pas une attitude adaptée. A une attitude de peur et donc il demande à être un peu plus formé.
On peut terminer peut-être avec de l'espoir, du positif. On a déjà un peu parlé de résilience. L'essentiel, peu importe où on se trouve, particulièrement en tant que témoin ou professionnel, quand on constate ou suspecte ce type de violence, l'essentiel serait de maintenir le lien avec l'enfant, d'en construire un sain pour qu'il ait justement ce modèle, cet exemple-là.
C'est le lien qui sauve. La résilience dont je parlais tout à l'heure, il va y avoir, par exemple, dans la vie d'un enfant qui vit dans un contexte familial violent, que ce soit verbal, psychologique, avec des menaces, si, par exemple, il se retrouve avec un enseignant qui l'aime, qui l'apprécie, qui le reconnaît, qui l'estime, qui a confiance en lui, s'il a des copains avec des parents qui sont gentils et qui sont adaptés. Oui, un regard sympa, une main sur l'épaule, un petit geste, enfin une reconnaissance. Tout ça, plus encore d'autres choses, de la thérapie aussi, ça va faire que les gens peuvent vraiment se réparer et devenir résilient.
Et pour terminer, si on parle de résilience, il y a l'importance de la thérapie, de se faire accompagner pour arriver à cela, j'imagine.
Quelquefois, oui, c'est mieux, il faut en avoir le souhait, il faut que ce soit le moment, et d'abord il faut reconnaître qu'il y a eu un problème et que c'était pas la norme.
Eh bien, merci Sophie Allais d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes maternologue au centre hospitalier du Haut-Anjou.
Merci.
Alors si vous nous rejoignez seulement maintenant ou que vous avez manqué le début de cet entretien, sachez bien évidemment que chaque émission de l'Agité du local est bien disponible en podcast sur l'autreradio.fr comme l'ensemble des émissions réalisées par nos bénévoles. N'hésitez pas à aller vous balader dessus, ça en vaut la peine.
Dans ma vie, le centre du monde, c'est l'amour.
Mon record, c'est Les jeunes filles de Monterland que j'ai lu plus de 100 fois.
J'ai fait semblant plein de fois de discuter avec des gens en disant « Ouais, putain, j'imagine quand même ça, c'est... » Mais en fait, j'ai pas...
Il y a des pages entières qui me hantent, des déclarations d'amour dont je me souviendrai toujours.
On n'a pas trouvé un nom tout de suite à cette séquence. Ce moment est simple et beau, mais c'est la lecture de l'auditeur.
Vous écoutez l'Agité du local.
Alors la lecture de l'auditeur aujourd'hui, c'est une chanson et c'est Emma qui va nous en lire le texte. Qu'est-ce que tu vas nous lire ?
Alors Petit homme de Kolinga.
On t'écoute.
Propulsé dans ce monde, tu t'es dit que c'était le tien. Ton âme sensible et profonde, plus tu grandis, plus elle s'abstient. Façonné de plus en plus tôt, pour se révéler de plus en plus tard. Avoir du cœur devient un fardeau, lorsqu'on marche pressé sur les trottoirs. Cours, petit homme, cours, petit homme. Continue ta course aux chiffres, tout en laissant ton esprit en friche. Compte, petit homme, mais quand on aime, on ne compte pas. Mets le vivant dans des cages, construis ton monde sur un mirage. Contrôle ce qui vit et respire, tu as bien des désirs à s'ouvrir. Compte, petit homme, vas-y, compte sur tes doigts. Mais quand de ta main j'aurai besoin, pourrais-je compter sur toi? Compte, petit homme, compte, petit homme. Tu as appris à compter, mais sais-tu seulement aimer? Tu te prives des richesses que seul le cœur peut évaluer. La pauvreté de ton âme, elle, ne cesse d'augmenter. Raconte-moi l'amour, je veux le vivre, peu importe le coût. De tes calculs, je m'en fous en somme, c'est l'infini le rendez-vous. Arrête-toi, petit homme, arrête-toi, petit homme. Arrête ta course folle, tu ne doubleras personne.
Pourquoi tu as choisi cette chanson-là en particulier ?
C'est un texte qui est peu connu, mais auquel tout le monde peut s'identifier aujourd'hui, je crois.
Tiens, comme le hasard aujourd'hui, moi je n'y crois pas beaucoup, j'ai choisi la pause musicale en fonction de cette lecture et je me suis dit que l'on pourrait écouter ensemble cet artiste, Kolinga, et je vous propose d'écouter maintenant ensemble Congo.
Jeter dans les eaux, un peu malgré moi, l'appel est si fort que je me perds un peu parfois qui on est, où l'on va. Au moins je sais qu'un bout de mon âme demeure chez toi. Congo, à l'image de ton fleuve, ton tumulte m'émeut et arrache tous mes masques, à nu je me jette à l'eau. Quel rôle m'offres-tu? Quel enfant suis-je pour toi? Le sage ou le têtu? Sais-tu, Congo, avec toi j'aimerais me lever, Congo, avec toi j'aimerais danser, Congo, avec toi j'aimerais avancer vers des jours plus beaux. Avec toi, j'aimerais.
Vous le savez, le 25 novembre est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et dans ce cadre, l'autre radio a recueilli 11 témoignages écrits qui ont ensuite été lus par l'équipe de l'émission Sorcière. Vous allez découvrir quelques-uns de ces témoignages dans la JT du local durant les prochains jours. Mais sachez que chaque jour, deux de ces témoignages sont diffusés 4 fois sur nos ondes. Alors aujourd'hui, c'est Ingrid qui a prêté sa voix à ce témoignage. Écoutez.
Le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte pour l'élimination des violences faites à l'égard des femmes.
Alors, raconte un peu. Racontez quoi ? La souffrance, les nuits blanches, la haine, la colère, les doutes, les brisures, les cassures, les pleurs, les crises d'angoisse, le traumatisme, la somatisation, l'effroi, la solitude, les années d'errance. Racontez quoi ? Le soutien. Les amis proches qui ont aidé, celles à qui nous n'avions pas besoin de dire que ça n'allait pas et qui étaient là, bien présentes. Les psys qui ont essayé, écouté, orienté. L'amour de mes enfants, celui qui me porte et celui que j'ai pour eux. Indécrottable, une chance incroyable. Racontez quoi ? Les autres qui n'ont rien compris ? L'indifférence de certains, les reproches, la maladresse de personnes qu'on aime pourtant ? L'inquiétude de la famille qui n'aide pas malgré les bons sentiments qui l'animent ? Racontez quoi ? Le déni, les insultes, la manipulation, l'affaissement de la personnalité, la perte de la joie de vivre, le maintien hors de l'eau pour les enfants, les écrits qu'on laisse pour que l'autre comprenne, en vain. Racontez quoi ? Le recommencement, la reconstruction, le retour de la personne qu'on était avant, les moments de bonheur simples qui reviennent et qu'on se prend en pleine face. Les bas qui resurgissent régulièrement mais qui ne sont plus jamais aussi bas qu'auparavant. Racontez quoi ? La mère forte qu'on a dû être pendant les pires moments de détresse. Celle qu'on n'a pas aimé être, car on faisait de son mieux, mais que le mieux n'était pas acceptable. Les enfants qui ont subi les histoires des adultes. Les enfants en colère de ne plus être avec leur père. Racontez quoi ? Qu'il faut assumer, que bientôt on arrivera à en parler, que la honte s'échappe, mais que le déni nous laisse mal à l'aise. Racontez quoi ? Que l'homme n'a pas laissé la bonne place à la femme, que la femme doit être l'égale de l'homme, que le chemin est encore long. Racontez quoi ? Qu'il faut sans doute être féministe, mais pas d'un féminisme revendicatif, non d'un féminisme intégratif et coopératif. Mettre l'homme à nos côtés, qu'il puisse lui aussi sortir de ces siècles d'erreurs. Racontez quoi ? L'amour qu'on éprouve encore pour cet homme perdu, lui-même dans ses siècles passés. Cet homme qu'on a aimé, protégé, aidé, compris, accompagné, encouragé. Racontez qu'on aimerait l'aider encore, pour qu'il sorte de ce déni, pour lui, pour que ses baskets soient confortables. Cet homme qu'il faudrait accompagner avec affection, pour qu'il transmette la vérité à ses enfants. Alors je vais raconter. Je vais raconter que je ne serai plus jamais la même, que ce n'est pas grave, que c'est même chouette, que toute l'expérience a son penchant positif, qu'il faut vivre maintenant et vivre mieux. Raconter que je suis libre de décider de raconter ou de me taire, que je suis toujours pleine de doutes, que je suis heureuse à ce moment précis, que je chéris cette empathie acquise pour toutes celles et ceux qui subissent toute forme d'abus de pouvoir, car oui, je l'ai vécu. Raconter que la vie est belle, que la nature nous protège de l'horreur et qu'il faut la choyer. Que l'amour est le secret, que les projets sont essentiels, que la culture est fortement recommandée. Raconter qu'il ne faut jamais baisser les bras, la vie reprend ses droits malgré nous, malgré la force qu'on y met, malgré le désespoir qui nous ronge. Il faut avoir confiance.
Chaque semaine, il nous invite à une promenade littéraire. Aujourd'hui, il s'attarde sur un sujet presque banal, universel. Non, rien n'est banal avec Donatien, même si aujourd'hui, il semble qu'il nous parle du temps qu'il fait. Écoutez.
Novembre, décembre, janvier, février, Quatre mois d'hiver où l'anticyclone, loin d'ensoleiller le jardin, colle le brouillard au sol, au point que sur le chantier d'à côté, les grues se sont perdues dans la brume. Cette météo maussade n'est-elle pas l'occasion de mettre un peu d'ordre dans les papiers à jeter ou à classer selon leur importance ? Relevés de banque, factures, bulletins de salaire, attestations diverses des diplômes et de tous ces examens que Donatien a passés depuis le brevet des collèges. Entre deux diplômes venaient s'intercaler les différents permis, la voiture synonyme de liberté, la moto pour le goût du frisson et de l'évasion, le bateau pour affronter les vagues de l'océan et de l'existence contre vents et marées. Passé la soixantaine, à l'âge heureux de la retraite, les examens ne sont plus que de vagues souvenirs assez flous, dont l'épreuve d'existence se résume à quelques feuilles jaunies ou froissées conservées dans une chemise cartonnée, finalement bien peu épaisse. Dans le classeur métallique, une autre chemise est beaucoup plus ventrue, elle déborde même. Souffle, tension artérielle, poids, audition, prise de sang, examen bucco-dentaire, tout y passe, une boulimie d'examen. Et pour cela, point n'est besoin de réviser. Le bachotage ne sera d'aucune utilité. Ces batteries d'examen ne se déploient plus nécessairement en juin et n'annoncent pas forcément les vacances. Plus ou moins désagréable, le scanner, l'IRM, la biopsie, la fibroscopie, l'écho-doppler ou encore l'électrocardiogramme qui dessine sur le papier les déchirures et les blessures de notre cœur. Ils n'ont rien de très difficile, ces examens. Les résultats ne sont pas publiés sur le panneau de la cour d'honneur du lycée ou dans le journal. Ni mention bien, ni mention passable, quoique derrière ses lunettes, l'examinateurologue n'est pas toujours satisfait des chiffres. Pour vous, pour moi, pour Donatien et pour tout un chacun, reste un examen où aucune tricherie n'est possible. Un examen qui a du sens et qui ressemble à ces balances Roberval d'autrefois avec deux plateaux de cuivre ou de laiton, grands comme des assiettes à dessert. À gauche, les poids lourds et légers de l'existence. À droite, les pleurs, les rires, les rêves et les secrets qui donnent du sens au quotidien, jusqu'à atteindre l'équilibre peut-être fragile, mais qui validera l'admission du candidat à son examen de conscience.
Dans tes classeurs de lycée, y a tes rêves et tes secrets, tous ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne, que tu caches, petite Anne. Dans tes classeurs de lycée, y a du sang et y a des pleurs, des premières blessures de ton cœur, les premières blessures, les premières déchirures qui font des bleus à ton âme, qui font des bleus, petite âme.
Que tu caches, petite Anne.
L'agité du local s'arrête ici. Merci à Sophie Allais d'avoir été à mon micro aujourd'hui. Merci à Donatien, évidemment, pour cette très belle chronique. L'agité du local s'arrête, mais laisse place à de très belles émissions. Et votre soirée commence avec l'émission Sorcière. Et alors aujourd'hui, Anna met son grain de sel pour animer. Et sachez que leur pointe d'humour n'entache en rien le sérieux et l'importance de leur sujet. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans cette émission, Ingrid nous ouvre les yeux sur la santé des femmes. Cécile nous donne à entendre un témoignage poignant d'une femme ayant subi des violences et donc un témoignage paru dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Stéphanie, elle nous fait rire et nous donne envie avec le film Rebelle. Et pour finir, alors on s'ambiancera avec Kate Bush grâce à la chronique musicale de Morgane qui fait toujours du bien. Ensuite, votre soirée sera plutôt rap avec l'émission Frères de chaussures animée par Fatshu, une émission sur le rap français même, et ça commencera donc à 21h. Voilà, moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du local. D'ici là, prenez soin de vous, prenez quelqu'un dans vos bras. S'il vous plaît, faites comme vous pouvez, mais faites-le bien.
Bon ben, Mimi, on dirait que c'est fini. Oh ben, c'était bien, hein.